I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Loïc est assez atypique. Il est tatoué à environ 60-70% de son corps. Il y a beaucoup de douceur qui émane de ce jeune homme, mais une grande force. Et il y a quelque chose dans les yeux qui font qu'on ne peut pas s'arrêter de le regarder et de lui sourire. Loïc m'a confié avec beaucoup d'honnêteté, de transparence et de cash sa vie de couple avec un homme qui est porteur du VIH, mais aussi son histoire avec l'homosexualité, comment il se savait homosexuel et comment ça n'a pas été un tabou ni compliqué pour lui à assumer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cette rencontre. C'est Loïc qui est aujourd'hui avec moi sur mon beau canapé rose.
Salut.
Loïc, tu as 27 ans.
Tout à fait.
Et Loïc, on va se parler là pendant ces quelques minutes, heures, enfin qui vont être par la magie du montage devenir une petite heure. Alors, je vais commencer par la première question que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Loïc, c'est quoi ton premier souvenir qui est lié au sexe, à la sexualité ?
Alors, je crois que mon premier souvenir, il date de l'adolescence.
Ok, rien avant.
Ouais, j'ai pas de souvenirs liés au sexe durant mon enfance ou autre. Enfin, j'étais très pudique, un petit peu dans mon coin. Peut-être que je m'en foutais ou que ça m'attirait pas. Mais ouais, à un moment donné, c'est arrivé à l'adolescence. Quand j'ai aussi commencé à découvrir mon corps, qu'il se passait des choses.
La magie des hormones.
La magie des hormones, c'est ça. Et que tout simplement, je suis tombé sur les cassettes VHS de mon père.
Ok, qui était planqué quelque part peut-être.
Qui était très mal planqué quelque part.
Ah, papa.
C'est ça. Et en fait, ça a démarré comme ça parce que du coup, j'imaginais des choses. Voilà, on a tous appris en SVT comment on était fait, comment est-ce qu'on se reproduisait. Voilà, exactement. Et de fait... je m'en donnais, j'ai fait le lien, je me suis dit « Ah tiens, en fait, ça se passe comme ça, et qu'est-ce que ça donne en fait ?»
C'était de l'érotique ou du porno ?
C'était du porno.
Du porno hétéro,
ah ouais,
classique.
Du porno hétéro, voilà, ouais, bien années 70, la bonne VHS.
Ah oui,
ouais.
Les bons poils, c'est tout ça. Ce qui va. Tu n'avais pas posé de questions avant à ta famille, tes parents
Rien du tout. Non. En fait, ouais, la sexualité, ça, c'était pas du tout tabou, mais c'était pas quelque chose...
dont on parlait à table.
Ouais, non, jamais... Okay. Même si je sais que mon père, enfin mes oncles, tout ça, ils avaient l'humour cul assez facile,
ouais.
Voilà. Mais
bon humour des années 90.
Ouais, c'est ça.
90, ouais.
Et on se dit ah tiens, d'accord, ching, ça ouais. Fait. Non, on n'a jamais vraiment
débattu.
T'es pas
embarqué dedans.
Non. Et puis j'ai jamais eu de conversation avec mon père en me disant tiens mon fils assieds-toi faut qu'on parle.
D'accord. Et ouais.
Non.
Donc tu vois ces cassettes VHS, ouais. Et là tu comprends qu'il se passe quelque chose.
Ouais.
Quel souvenir tu as de ces premières images ? Parce que tu passes de l'enfance direct à ça.
Direct à ça, c'est vrai que j'avais toujours les copains à l'école ou autres, les gars très, très machos, très populaires qui en parlaient régulièrement dans les vestiaires de l'école ou à la cour de récré. Mais c'était que des mots, c'est toujours pareil, tu laisses parler de ton imagination. Et ensuite, le visuel, le réel, c'est autre chose. Mm-hmm. Et donc là, oui, clairement, je suis face à des images qui m'intriguent beaucoup.
Ok.
Ouais, et en fait, ça me parle. Enfin, je sens que vraiment, je suis...
T'es captif.
Ouais, c'est ça.
Waouh.
Ouais, j'aime bien.
Ok.
J'aime bien et surtout, je prends conscience qu'en fait, ça me fait plaisir, ça me fait du bien.
Et physiologiquement, il se passe quelque chose.
Ouais.
Tu comprends.
Carrément, je comprends et je vais plus à la recherche.
Tu subtilises les cachets de VHS.
je les cache au bon moment.
D'accord.
Et effectivement, ouais, j'attendais tout le temps que que mes parents partent ou que je rentre plutôt du collège pour pouvoir shipper rapidement les cassettes.
Et là, t'as quel âge à peu près, tu t'en rappelles ?
Là, je crois que j'ai 14 ans, 13-14 ans.
D'accord, donc vraiment pleine puberté.
Ouais.
Ok. Donc, tu commences, on va dire, la petite branlette sympa à fin de collège.
C'est ça.
Voilà, devant les VHS 70. Waouh.
Ouais.
Waouh. Ok.
Mais et... toujours de façon très pudique, tu sais, jamais genre, ah ouais, genre, c'est trop cool.
D'accord.
Genre,
ça restait un plaisir solitaire.
C'est ça. Je profitais vraiment du moment. J'aimais bien. Je découvrais tout ça.
Et tu t'es pas posé de questions sur la normalité de ce qui se passait ou des choses comme ça? C'était très fluide pour toi?
Ouais, c'était fluide, mais j'avais quand même conscience que c'était déjà... c'était un film, en fait.
Ok.
Et que j'imaginais... Enfin, très rapidement, j'ai compris que c'était pas... Enfin, que c'était pas la vraie vie, c'était pas la
D'accord.
réalité. Fin...
T'as tout de suite compris que c'était un support ouais. pour s'exciter.
Ouais, carrément.
Et que c'était et pas que, comme ça que ça se passait.
C'était vraiment... On te donnait accès vraiment à de la pornographie, à du sexe, et que c'était pour se faire plaisir. C'était pas vraiment la réalité. C'était vraiment un vecteur, un moyen de bah pour s'amuser quoi.
D'accord. Et les images, c'était un homme, une femme, basta.
Ouais, c'était ça, même s'il y avait.
Heureusement que ton père
plus...
n'avait pas des goûts un peu.
Non, ça va, il était assez classique.
Donc ça, c'est au collège. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe au collège? Tu commences à flirter. Est-ce que tu commences à flirter avec les filles?
Ouais. Ben, okay. Naturellement, vu que c'est un schéma qu'on a envie de tous reproduire, oui, c'est ce que j'ai mm-hmm. fait. J'ai eu des petites copines, parce que voilà, pour faire un peu comme tout le monde, et surtout pas être trois bines.
D'accord, elle sur le.
Mais.
Donc, première amourette au collège.
Ouais, première amourette au collège, mais pareil, c'est toujours très distant parce qu'en fait, même si je veux bien me faire voir, même si je suis curieux, même si j'ai envie de découvrir des choses, et. Je reste très pudique. Donc, du coup, je. Ben, j'ai des petites amourettes, il y a des filles avec qui je m'entends bien, avec qui ça matche plutôt bien, mais on va juste voilà, se tenir la main, se faire des bisous, s'embrasser, et ça ira jamais plus loin.
Ça c'est au collège?
Ouais, ça c'est au collège, parce que j'ai jamais eu, peut-être d'une déjà l'occasion,
mm-hmm.
Et surtout en plus l'envie vraiment d'aller concrétiser ça.
Donc tu avais d'un côté le porno, tu savais comment ça se passait, qui
ouais.
était ton support d'excitation.
Ouais.
Et d'un autre côté, c'est flirt, etc. Mais pour toi, il y avait pas, fallait pas passer, fallait
ouais,
pas les relier, quoi.
Ouais, en fait, bah parce que j'y suis plus tard. Pourquoi,
pourquoi. Nous allons dévoiler le voilà. pourquoi du comment. Je te laisse le c'est dévoiler.
Bah, tout simplement parce que à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que je préférais les mecs.
Ok.
Et que bah juste avec des nanas, ça me plaisait pas. Enfin, j'avais pas envie.
Ça t'excitait pas.
Ça m'excitait pas. Ouais. Mais c'était aussi simple que ça. Et j'avais pas. J'ai jamais ressenti le besoin d'aller découvrir le corps d'une femme ou d'une fille ou savoir comment ça se passe ou autre, parce que non, moi, mais les images que j'avais, ce qui m'excitait, c'était vraiment le mec.
Et sur les cassettes VHS, du coup, c'est l'homme que tu regardais qui t'excitait.
Ouais.
Et pas la femme, en fait.
Non,
et
vraiment...
ça, tu l'avais compris?
Pas tout de suite.
Tu regardais l'image?
Non. Ouais, je regardais l'image. Ce qui se passait m'excitait énormément. C'était très chouette à voir. Mais c'est vraiment plus tard, en fait, quand j'ai vraiment. Enfin, comment dire, plus tard. Je sais pas vraiment définir à partir de quel moment, mais où je sais que j'ai aiguisé mon regard. Tu sais, j'ai vraiment plus posé mes yeux sur les garçons.
T'as,
et je me suis dit.
Ouais, je comprends.
Voilà, et surtout, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre quel type de mec me plaisait aussi, et que j'avais dans mon entourage des gars qui étaient du physique que j'aimais bien, et là, je me suis dit, putain, merde, en fait, il se passe un truc.
C'est ça.
Genre là, j'aime bien ce que je vois, tu vois.
Et là, t'es quoi, fin de collège, lycée?
Là, je suis fin de collège, début lycée, ouais.
T'as grandi à la campagne?
Ouais, absolument.
Dans un petit village?
Dans un petit village, ouais, un hameau.
Un hameau.
Un hameau.
Deux maisons. Et donc,
ouais, dans les bois.
Waouh. Et comment ça se passe? Donc, t'es au collège, lycée de du plus gros, la petite ville du coin, et mm-hmm. donc tu commences à comprendre que c'est les garçons qui te plaisent?
Mm-hmm. Ben, j'en parle pas.
Ok.
Ben, j'en parle pas, je garde ça pour moi.
Tu te sens comment, toi?
Bien. Franchement, j'ai jamais été mal à l'aise par rapport à ça.
D'accord.
J'ai très bien vécu mon homosexualité. Mon entourage beaucoup moins, enfin ma famille beaucoup moins, mais ça c'est une autre histoire. Mais moi je me suis toujours senti à ma place, bien dans ma peau. J'ai très rapidement pris conscience que c'était pas anormal, que fallait juste que je me fasse plaisir, que j'étais comme ça, et puis bah
super.
Ça quoi. Voilà.
T'as tout de suite été en phase avec ton homosexualité.
Ouais. Et ce qui m'a énormément rassuré aussi, c'est que j'avais des amis très proches avec qui je pouvais en parler, qui s'effrayaient pas du tout, même
des garçons,
des curieux, des garçons et des filles.
Super.
Et c'était chouette. Et en fait, je me suis peut-être pour ça d'ailleurs, mais je me suis jamais senti bizarre, étrange, oui, hein, ou pas à ma place, parce que j'avais des amis avec qui on parlait et qui soit s'en foutaient, soit étaient intéressés, parce que c'était juste normal.
Ok, donc, bah ça c'est super, parce que t'as pas mal de jeunes ados qui vont se sentir, en plus avec le mal-être de l'adolescence, ouais, etc., tu vois, avoir cette espèce, ouais, de dépression ado, ou en tout, carrément, cas ce sentiment d'être complètement anormal. Ouais. Et bon, on se souhaite qu'en 2019, quand même, l'adolescent
complètement,
qui, tu vois, découvre son homosexualité, est quand même à l'aise avec ça, ouais, mais c'est vrai que
même
on
si
met ça quasiment 30.
Cadre, son schéma, oui, social, oui, familial, oui, ne lui permet, oui, pas, mais qu'au moins, oui, effectivement, aujourd'hui, on a les supports, même, on a les...
Puis il y a des figures, enfin, tu vois,
ouais,
il y a
carrément,
des...
Enfin,
y a
je
des...
veux dire, aujourd'hui, la communauté queer, elle est comme... carrément, enfin, elle est très développée, elle est, elle,
oui,
a portée
les...
de main.
Même dans les médias, etc.,
absolument,
tu
absolument,
peux quand même,
ouais,
te... Nous, enfin, moi, je me rappelle, Ricky Martin a caché son homosexualité,
c'est vrai,
pendant des années.
S'il n'y avait que lui.
Voilà, mais s'il n'y avait que lui, tu te rends compte, parce que,
non,
justement,
carrément,
c'était les starlettes et les vedettes, de, tu vois, de un peu populaires, etc., ouais, on leur demandait, enfin, les maisons de disques leur demandaient de cacher leur homosexualité, pour parce que leur
mais même,
tu vois, leur public était des gamines.
Même encore, mais heureusement, il y a quand même des personnalités assez fortes,
oui,
et surtout une communauté qui a vraiment
oui,
qui est assez forte, qui
et
a une bonne parole, qui permet aussi, bah, de montrer que juste tout est normal, quoi. Et heureusement, effectivement, qu'il y a ça. Et j'ai eu la chance, en fait, moi, d'évoluer, de grandir avec des amis qui étaient en fait juste insensible en fait à cette peut-être à l'anormalité qui, mm-hmm, juste pour eux était dans le moment présent et partager des bons moments avec juste des personnes avec qui s'entendaient bien,
c'est
enfin
ça.
Bah, voilà, c'est...
t'étais pas défini, t'étais pas le
non,
pote gay,
ouais,
t'étais
voilà,
Loïc et basta,
exactement, ouais, ouais.
Ça, c'est extra... enfin c'est
non
c'est précieux,
c'est
en tout,
cool,
cas,
ouais.
Okay, ça c'est chouette,
ouais.
Donc là t'es au lycée, donc tu commences à comprendre que les garçons t'intéressent,
ouais,
que c'est ça qui te plaît.
Carrément.
Alors comment tu vis cette homosexualité et comment ta sexualité tu vas la concrétiser et la vivre de façon épanouie?
Eh bien, ça, alors ça va mettre un petit peu de temps parce que mon entrée au lycée est un peu chaotique.
Mmh.
Je quitte un schéma familial assez complexe, très anxiogène. Et du coup, tout de suite, je me sens pas à ma place au lycée. J'ai pas mes repères. Je me sens pas bien avec les autres gens de mon âge.
Tu quittes ton schéma, ça n'a rien à voir avec ton homosexualité.
Non, ça n'a rien à voir.
D'accord.
Mais c'est vraiment le climat social familial.
D'accord.
C'est, voilà, tout ce qui était à la maison était hyper nocif. C'était pas bon pour moi. Je me suis jamais épanoui en fait dans ma famille. Et en arrivant au lycée, je me prends encore plus cette claque en pleine figure. Et parce que je me sens seul, je me sens qu'avec des gens que je connais pas, j'ai quitté tous mes potes du collège avec qui j'étais,
okay,
bien, tout ça. Donc bref, je fais,
ouais,
des études qui me plaisent, mais qui m'emballent pas tant que ça. Donc du coup, je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Et là, bah, en fait, très rapidement, je me mets à me désintéresser de l'école, à sortir de plus en plus. À... Ouais. Voilà, là, je me fais un très très bon pote qui va devenir plus tard mon meilleur ami. Qui est gay et du coup avec qui je peux clairement parler, s'amuser, faire tout ce qu'on veut.
Donc quand
ça,
tu dis tu fais tout ce que vous voulez, vous sortez?
Ouais, on sort, on va s'amuser, on va boire des coups, on sèche les cours, on va boire des coups, on va.
Et là, toi, ta sexualité à ce moment-là, toujours,
il s'est là,
toujours
c'est toujours,
rien passé.
Il s'est rien passé, ouais.
D'accord.
Là, physiquement, il s'est rien passé.
Mais c'est ça qui est extra, parce que j'ai eu pas mal de garçons qui m'ont parlé.
Uh-huh.
Ils se sont définis homosexuels quand ils ont eu leur premier rapport.
Ouais.
Alors que toi, c'est incroyable parce que tu t'es déjà défini. T'as,
ouais,
ton. Alors, j'aime pas ce mot, mais tu as l'étiquette, tu sais que tu es homo.
Ouais.
Mais il ne s'est rien passé.
Mais clairement, même à l'époque, moi, je le vivais comme une étiquette. Je savais. Et même peut-être que ça me rassurait, tu sais, cette
d'accord,
étiquette de se dire moi, je suis comme ça. Ça y est,
okay,
je rentre dans une case et je sais où est ma place, de ce côté-là.
C'est intéressant, ce cheminement.
Et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a permis d'être bien dans mes pompes.
Ouais, d'exister
ouais.
De façon. Ok. Donc, tu sors avec ce pote, vous sortez,
ouais,
vous
voilà,
sur les cours,
exactement,
les trucs
on se fait
d'ado,
plein d'autres potes et tout ça. Donc là, pareil, je me recrée en fait un univers avec plein de potes, plein de gens qui, pareil, sont culturellement hyper intéressants, enfin et intéressés aussi. Donc là, ça se passe bien. Et du coup, en dehors des cours, j'essaie de commencer à flirter. Mais malheureusement, on rappelle que je viens d'une région où les beaux mecs, quand même, ils se, on les cherche.
ne sont pas tous présents.
Ils sont pas tous présents. Bref, bah du coup, en gros, je trouve pas chaussures à mon pied. Je me dis, ok, bon, les mecs, vous êtes intéressants, mais physiquement, j'ai juste pas envie d'avoir du cul pour du cul, en fait. Enfin, peut-être, enfin, j'en avais peut-être envie, mais je me voyais mal avoir un rapport sexuel avec un mec qui m'attirait moins.
Bah, surtout ton premier. Enfin,
ouais, tu vois, je bof.
Okay.
Donc, alors j'aurais pu, mais non, j'ai toujours joué le timide et je me suis toujours dit bah, non.
Donc tu gardes ta virginité.
Ouais, voilà. Donc, okay. En fait, j'ai des petits copains.
Ok.
Mais pareil, c'est rarement aller au-delà, quoi. C'est pas.
D'accord.
On reste un peu dans les amourettes, un petit peu frivole.
Des flirts, quoi.
Ouais, des flirts. Rien de très très funky. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais découvrir le monde des applications de rencontres.
Ah, le fameux monde des applications
et
de
oui,
rencontres, le 2.0.
C'est ça, je suis tombé très rapidement dedans.
Ah, voilà.
Et en fait, le pourquoi je suis très rapidement tombé dedans, c'est parce qu'en fait, du coup, je me faisais chier, je trouvais pas les mecs qui me plaisaient et que...
T'étais toujours dans ta région, là.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et que je savais qu'il y avait mieux ailleurs. Mm-hmm. Et que aussi, il y avait beaucoup de mecs qui étaient discrets.
Ouais.
Et forcément, qui disent... petite ville dit forcément peut-être beaucoup de gays ou même beaucoup de bi mais qui se cachent. Donc je le sais, j'en prends conscience, donc je m'inscris sur les sites de rencontres.
Donc c'est quoi, c'est Grindr, des choses comme ça?
Ouais, c'était Grindr, c'était quoi, Planète Roméo, Gay Roméo je crois. Gay Roméo.
Oh là, le naming.
Ouais, ce genre de choses là. Et là du coup je croche avec pas mal de mecs, donc du coup j'ai mes premiers contacts et même peut-être plus cul, vraiment, il y avait c'était...
On n'était pas très gay Roméo, quoi.
Non plutôt...
T'es loin de Roméo.
T'es loin de Roméo, ouais, ouais. Et en fait, ça va se passer comme ça.
D'accord.
Ça va se passer comme ça.
T'as découvert de l'homosexualité, c'est avec des mecs d'appli.
Ouais, ouais, c'est avec un mec d'une appli que j'ai rencontré comme ça, je suis allé chez lui.
Tu vivais tout seul?
Je vivais pas tout seul, je vivais chez mes parents, mais j'étais en internat, donc du coup je quittais l'internat pour aller chez lui. Ouais.
Tu rencontres ce mec.
Et je rencontre ce mec, et donc se passe la première fois.
Il a quel âge?
Il est beaucoup plus âgé que moi.
Bah ouais, parce que toi t'as quoi? T'as 17 ans, 18 ans?
Ouais, 17 ans.
Oh là là.
J'ai 17 ans, le mec il a 35, je crois.
Ah oui?
Ouais.
T'as pas menti sur ton âge?
Jamais menti sur mon âge, je crois, ouais, ouais, ouais. Même si t'es obligé pour t'inscrire sur les sites.
Oui, oui, mais d'ailleurs, tu lui as dit, j'ai 17 ans.
Ouais, 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 ouais. En fait, j'ai toujours eu ce rapport où je suis vraiment en phase avec moi-même et j'ai pas besoin de cacher. Enfin, parce que je savais qu'aussi, il y a des mecs que ça dérangeait pas non plus de baiser avec des jeunes plus. Enfin, des gars plus jeunes, quoi. Donc
tu vas chez ce mec.
Donc je vais chez ce mec.
T'es comment? Tu te rappelles comment t'es à ce moment-là?
Hyper stressé.
Tu m'étonnes.
Hyper stressé parce qu'en plus, le cadre était hyper spécial.
Ok.
T'es gendarme.
Tu vas à la gendarmerie?
Je vais dans la caserne de gendarmerie. Mais alors pour autant, lui était assez discret parce qu'il fallait pas que ça se sache.
Bah oui.
Et donc, ouais, il m'emmène un petit peu en secret chez lui. Et puis voilà quoi.
Et ça se fait.
Donc je suis stressé, tout ça. Mais le mec était vraiment gentil, assez respectueux. Il savait que c'était ma première fois.
C'était un gendarme.
Il n'a pas sorti ses menottes tout de suite.
Non, on attend.
Non, on va attendre pour les Rangers et les menottes.
Dans un deuxième temps.
C'est ça.
Ok, donc ça, c'est une première fois qui aurait pu être super différente parce que c'était la loterie. Et là, t'es tombé sur un chouette mec.
Je suis tombé sur un chouette mec et il m'a tout de suite mis à l'aise et j'étais vraiment en confiance. C'était cool, très respectueux et même très dans la... Ça l'amusait en fait de me faire découvrir des choses et surtout de se dire que c'était ma première fois. Forcément, ça excite beaucoup de gens, mais il était... Ça lui plaisait vachement de me dire, tiens, regarde, on va tester ça, peut-être que ça va te plaire. Même se dire, tiens, t'aimes ça, t'aimes pas ça, c'est cool, comme ça, on peut peut-être plus approfondir ce que t'aimes et délaisser un petit peu ce que t'aimes pas. Donc, c'était assez chouette.
Toi, tu t'étais fait une idée de cette première fois? Tu savais comment ça allait se passer?
Non.
Parce que pour les hétéros, t'as ce truc de dans les homos, t'as les passifs et les actifs. Est-ce que toi, tu savais? Est-ce que tu t'étais posé des questions?
Pas du tout.
Tu t'es dit, ça va.
Non.
Au petit bout dans la chance.
Ouais.
Ok.
Ouais. Ça s'est présenté à moi très naturellement, très facilement.
Ok.
Et ce qui fait que, en fait, moi, je crois pas au prince charmant. J'ai jamais idéalisé ma première fois parce que peut-être peur d'être déçu.
Oui.
Tu sais, qui idéalisent quelque chose et ça se concrétise jamais.
Dans, d'un point de vue, dans la société, on parle beaucoup des premières fois des jeunes femmes.
Oui.
On parle rarement des premières fois des jeunes garçons et encore moins des jeunes garçons homosexuels.
C'est
tu
vrai,
vois, on
c'est
est,
vrai.
Il n'y a pas trop de, d'imaginaire autorisé là-dedans. Donc, j'imagine que, ouais, quand toi, tu y vas, bon, évidemment, tu te souhaites que ça se passe bien, mais...
Ah mais... oui, bah oui, évidemment. Mais non, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose... Même... j'ai pas trop d'anecdotes, c'est vrai que par rapport à ça, où je même dans, vis-à-vis de mes potes, je sais pas comment ça s'est passé leur première fois ou c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ouais, enfin je sais pas. Bref.
Bah, on en parle là.
Oui, on en parle là. Chouette. C'est le moment.
D'accord. Donc tu vois ce genre d'arme,
ouais.
Chouette.
Ouais.
Ça se passe bien.
Ouais, très bien.
Okay,
on même reste un petit moment ensemble parce que du coup on s'amuse bien. Moi j'ai un petit crush pour lui donc.
Bah ouais, en plus il a dû représenter pour toi quelque chose d'assez intense quoi.
Bah ouais.
La première fois, il est plus âgé,
ouais,
la situation.
Carrément.
Il était en couple.
Du tout.
Non, il était célibataire.
Non, du tout, il était célibataire, ouais.
Ok.
N'a jamais voulu prétendre être en couple.
Oui, j'imagine.
Donc,
même lui, au niveau de la loi, c'est chaud quand même, hein, avec un mineur.
Oui.
C'est pas quand t'es gendarme.
Oui. Et mais moi j'ai bien aimé, enfin on verra, putain, j'ai bien aimé justement.
Tout ce qui est uniforme, tout ce qui...
Non, mais même jouer un petit peu avec la loi, ça a été un petit peu excitant.
Okay. C'est lui qui a donné le tempo, peut-être.
C'est ça. Et oui, donc on passe un petit moment ensemble.
Donc t'apprends ta sexualité avec
lui. Ouais, je découvre ma sexualité avec lui. Moi, d'un autre côté, je m'empêche pas non plus de regarder un petit peu ce qu'il y a à côté, mm-hmm. parce que bah, je savais qu'il était qu'il n'avait pas envie de se poser. Enfin, peut-être moi non plus, j'ai peut-être
pas envie.
Oui,
t'as 17 ans, tu viens de tout découvrir là.
Clairement, oui, c'est ça.
Et quand tu sors de cette première nuit, c'est ça y est, c'est fait.
Ouais, quand même. Il y a ce coup, il y a ce côté. Ce coup. Il y a ce côté, ouais, ça y est, je suis dans la cour des grands.
T'étais déjà sûre de toi, mais ça y est, c'est validé.
Ah oui.
Enfin, il n'y a même pas de questions.
Ouais, il n'y avait même pas besoin de valider plus quoi que ce soit. C'était, moi, j'étais vraiment content d'avoir ma première fois. Oui, peut-être que dans le fond, ça a concrétisé le
que t'aimais les garçons.
Que j'aimais les garçons. Parce que ben, tu goûtes pour la première fois vraiment un corps d'homme. Enfin,
et alors, ce corps d'homme ?
Bah, c'est cool. C'est
quand
même super cool. Hein.
Ouais.
Ouais. C'est très chouette, c'est très attirant, c'est très excitant. Enfin, on peut faire plein de choses avec.
Alors, c'est pareil pour les filles.
C'est vrai, mais je t'en parlerai moins bien.
Ouais, ouais. Et jamais les filles.
Jamais les filles.
Ok.
Ouais. Jamais. Ça m'a jamais attiré. Ça m'a jamais. Je trouve vraiment. Alors, le corps féminin, très joli, très beau.
Esthétiquement.
Esthétiquement, je trouve que c'est intéressant. Mais sexuellement, ça m'a jamais excité.
Parce que toi, tu as un rapport au corps, on va le dire là, parce qu'on va le voir sur la photo, tu as un rapport au corps particulier, parce que tu es couvert de tatouages.
Ouais.
C'est ton métier, tu es tatoueur.
Ouais.
Et donc, du coup, tu dois avoir un rapport au toucher, à la peau et au corps particulier.
Surtout au corps.
Tu le dessines, tu le sublimes. Enfin, les gens ne voient pas, mais c'est très impressionnant. Moi, je ne vois que les membres sortis de ton t-shirt et de ton bermuda.
Précise le t-shirt, s'il te plaît.
Oui, c'est vrai, pardon. Mais c'est vrai que tu as des tatouages sur tout le corps.
Ouais.
Quoi. C'est hyper beau. Et tu as ce rapport au corps très particulier.
Mais c'est pour ça que je suis pas... Le corps féminin ne me dégoûte pas, mais juste ne m'attire pas.
D'accord.
C'est plaisant. Je trouve des corps de femmes très beaux.
Mm-hmm.
Je prends vraiment plaisir à dessiner des corps de femmes. C'est très intéressant.
Tu les dessines aussi ?
Oui, parce que j'ai pris il n'y a pas longtemps des cours de nu, genre de choses là. Donc c'est très joli. Enfin, le corps humain est beau.
Oui, le corps humain.
Quoi qu'il arrive, il est beau. Mais
dans tous ses styles, dans tous ses corps, dans tous ses formats. Enfin,
ouais, tout à fait. C'est vrai, parce que même toutes les physiques, les morphologies et tout ce qui est intéressant dans le corps. Mais j'ai quand même. Ouais, pris conscience vraiment à ce moment-là, lors de ma première fois, que physiquement, vraiment, c'était le corps de l'homme qui m'apportait du
c'est
plaisir.
C'est avec ça que ça marche.
Ouais, enfin, clairement, c'est ça qui m'excitait, quoi. Rien d'autre.
Ok, donc tu t'es. Donc voilà, donc cette première fois, tu as cette histoire qui dure quelques mois,
un an, je crois.
Ah oui, donc une jolie première histoire.
Oui, c'était très bien.
C'est hyper romantique, en fait.
Ouais,
c'est
ouais,
le mec
ouais.
hyper détaché. ta première fois avec un espèce de. Pygmalion du sexe, un an.
Ouais, c'est vrai.
C'est chouette, c'est une jolie histoire.
Ouais.
Enfin, c'est une belle entrée en matière.
Non, c'était assez cool. Et même une fois l'histoire terminée, et on a eu l'occasion de se revoir après.
Okay.
Et de recoucher ensemble. Et,
histoire
2. Et ça a toujours été en fait des bons moments et plaisants. Et genre, pas. il a peut-être, je pense, toujours senti un petit peu la reconnaissance aussi à mon égard,
que,
ouais,
que,
que j'ai eu vis-à-vis justement de, bah,
de son apprentissage.
De son apprentissage, c'est ça.
Merci.
Et qui était peut-être toujours aussi excitant aussi, j'imagine. Ouais. Mais ouais, ça a été cool. Ça
et
a
bon,
vraiment été chouette.
Pendant cette année, donc tu disais, t'as quand même regardé un petit peu ailleurs.
Ouais.
Ouais. Et en fait, vous êtes séparés parce que t'as passé ton bac.
Non. Alors oui, non. Entre temps, moi, je suis partie de chez mes parents.
D'accord.
Donc à mes 17 ans,
okay.
J'ai pris mon indépendance. Là, je quitte le schéma familial, grosse fracture familiale. Je vis mon indépendance, ma vie à fond, à 100%.
Toujours dans la région ?
Toujours dans la région, ouais, ouais. Peu de temps après, justement, arrive le moment où on se... bah, lui s'en va. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Moi, je prends mon indépendance, lui s'en va parce qu'il est muté, forcément. Et en fait, ben, presque au même moment, je rencontre un autre gars avec qui, là, ça a été encore plus intense.
Histoire d'amour là.
Ouais, ouais. Là, j'ai vraiment bien kiffé sur ce gars-là. Ça a été assez intense.
C'est un mec que tu rencontres.
C'est un mec que je rencontre par le biais de mon émancipation.
D'accord.
On va dire, parce que forcément, tu quittes pas ta famille comme ça du jour au lendemain.
À 17 ans, ouais.
À 17 ans, il y a eu des facteurs et des facteurs pas très très chouettes, qui fait que j'ai été amené à rencontrer des gens du milieu social et des éducateurs. Et je tombe sur un mec qui est assez intéressant et que je retrouve sur des sites.
D'accord, donc c'est un éducateur.
Ouais.
T'as un truc avec la loi, hein. Le responsable, la figure hiérarchique. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Il y a un truc, hein,
ouais,
c'est ce mec-là
ça,
qui
c'est
te.
Pour ça.
C'est drôle, c'est drôle. D'accord, donc et tu retrouves ce mec sur un site.
Je retrouve ce mec
enfin,
sur
même temps,
un site.
Sur des applis, il y a pas grand monde, enfin.
Ouais, non, il y a pas grand monde.
Tu peux retrouver d'un point de vue.
Ouais.
Statistiquement, tu peux retrouver les gens de ta région facilement.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est pas à Paris où il y a,
c'est
tu vois.
Ça. Ouais, ouais.
Ok. Donc tu recroises cet éducateur.
Ouais, ouais.
Oh là.
Et là, et donc lui, déjà dès le départ, il essaie de mettre vraiment les distances.
Ouais.
Non, ça va pas le faire. Et en fait, ça l'a quand même fait. Hein.
Ok.
Ça l'a quand même fait.
D'accord.
Et gros pied quoi. Enfin, gros kiff.
D'accord.
C'était ouf. En fait, en plus, je tombais sur un mec hyper charismatique avec une carrure qui me plaît énormément, qui bon, de fait aussi plus âgé que moi, mais qui est vraiment en place, qui enfin il y a tout un idéal en fait chez ce mec qui me plaît vraiment.
T'as besoin de ce genre de figure là,
ouais, à fond.
D'hommes plus affirmés dans leur vie, dans leur statut social, dans leur
physique,
dans...
Je pense que j'ai besoin d'une... Alors, ouais, dans leur physique, oui, j'ai besoin de quelque chose qui est d'une, déjà, à l'inverse de mon physique.
Donc,
Donc du coup, forcément plus baraqué, plus grand, plus trapu, plus musclé.
Oui, parce que t'es
plus...
plutôt fin.
Ouais, je suis plutôt fin, pas très grand. Enfin, je suis 1m69. Et, et du coup, ouais, vraiment, je vais rechercher des mecs qui sont plus bâtis, quoi.
Qui sont plus baraques. Quoi.
Ouais, qui sont plus baraques, carrément. Et lui avait tout ça. Il avait tout ce que je recherchais, tout ce que j'attendais. Donc, en plus, vraiment, de l'intérêt sexuel, enfin physique, j'ai vraiment eu un pincement, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu un...
On peut dire que c'était ton histoire ta première histoire d'amour.
Ouais, ouais, ouais.
Et lui, il était comment avec toi ?
Lui, il était très attentionné. Au début, c'était que du cul. C'était assez fou. C'était même vachement bien. Mais quand même très distant.
De par la situation...
Que marié.
Ah oui. Et parce que marié. Et à l'époque, le mariage pour tous n'existait pas. Donc, il était avec une dame.
Ouais, absolument.
Ok.
Ouais, ouais, ouais.
Il était en couple avec des enfants, pas d'enfants.
Enfants. Ouais. Au moment où moi je rentre dans sa vie, justement, lui attend un enfant. Et c'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que du coup, à mon avis, lui, il avait bien chaud et il avait envie de cul, je crois.
Ok. Ouais.
Et,
Le sexe et la grossesse sont compatibles, hein, mais bon,
ouais,
en l'occurrence, pas chez lui.
Pareil, de l'autre côté, tu vois, je sais pas comment ça se passe. Et donc, c'est ce que j'en ai déduit. Et ce qui a été.
Il était bi ?
Ouais, lui se disait comme bi. Et ce qui était hyper excitant. C'est qu'en fait, j'ai vécu plein d'expériences assez fun avec lui, quoi. Enfin, des situations un peu improbables, des
comme quoi
par exemple devoir garder sa fille et moi du coup j'attends que papa rentre.
Ok, dans tous les sens du terme.
Voilà. Ce genre de choses où pareil où je le retrouvais. je le retrouvais dans une parce qu'il avait une il avait aussi une boutique. En plus de ça, il avait une situation, enfin il avait deux situations professionnelles et du coup, il était en il avait une boutique de fleurs et j'allais le retrouver à sa boutique et ce genre de choses là, enfin.
Et vous faisiez l'amour dans les fleurs?
C'était ça, dans la réserve et tout.
Ah ouais, c'était rock'n'roll.
C'était assez rock'n'roll, c'était...
T'aimais bien l'instabilité de cette situation?
Elle m'a toujours un petit peu... elle m'a toujours un peu fait souffrir. Parce que c'était compliqué. C'était compliqué à gérer parce que forcément, t'as un peu... Enfin, quand tu tombes amoureux d'un mec et qu'il n'est pas disponible, t'espères toujours au fond de toi, tu vois, qu'il va se passer quelque chose. Mais bon, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et du coup, ça me nourrissait, tu vois, genre cette jalousie.
Vis-à-vis de sa femme, sa famille.
Ouais. Ça réveillait en moi vraiment des instincts de plus en plus bestiaux. Enfin, j'avais. Ok, je peux pas t'avoir, mais par contre, tu vas tout donner, quoi.
Ouais, niveau cul, c'est moi qui supplanter tout le monde.
C'est ça.
Ok. Donc, je comprends la balance.
Voilà. Donc, c'était assez rock'n'roll.
Et cette histoire a duré combien de temps?
Un bon bout de temps, quand même. Ouais. Un bon bout de temps, 3-4 ans.
Ah ouais?
Ouais, 3-4 ans.
Donc, t'as vu les naissances?
Ouais. J'ai tout vu.
Ok.
J'ai tout vu et c'était.
Et sa femme, c'est jamais rien.
Je pense.
D'accord.
Je pense, mais on a toujours été. On a quand même bien géré. Hein. C'était assez discret.
Elle savait pour sa bisexualité?
Je pense pas. J'ai pas envie je suis pas certain à 100%, mais je pense pas. Je pense qu'à certains moments, oui, elle a tiqué, elle s'est posé des questions, parce que même lui me disait, on va se voir différemment, enfin, on va essayer peut-être mettre ça en place, parce que, elle se pose certainement des questions. Mais je n'étais pas certain que c'était vraiment ciblé sur moi.
Ah, c'est incroyable. 3-4 ans, il a eu cette double vie.
Ouais, il a eu cette double vie. Bon, il s'est séparé entre-temps.
De sa femme. Okay.
Et ça arrive au moment où en fait je finis mes études parce que évidemment j'ai quitté le lycée pour m'émanciper et donc j'ai j'ai continué mes études dans le milieu professionnel. Donc là arrive la fin de mes études professionnelles et j'ai l'opportunité en fait de pouvoir bouger. Donc c'était deux grandes villes et mon choix, la balance a pesé pour Paris. Et en fait, moi je commence à faire des petits allers-retours sur Paris et parce que je rencontre aussi quelqu'un sur Paris à distance en fait. Et
à distance, c'est-à-dire par les applis?
Ouais, par les applis.
Et alors, pour faire un petit retour en arrière, pendant les 3-4 ans où tu es avec ce mec marié, tu as d'autres histoires? Ou toi, tu es exclusif avec
ça
lui?
Ça m'arrive.
D'avoir.
Quand
on a un peu marre ou quand t'es un peu trop.
Ouais, et puis quand ça me saoule, quand il n'est pas disponible.
Oui, quand il est en vacances avec madame.
C'est ça.
Ok. Donc toi, t'as des histoires à côté.
Ouais, j'en ai quand même quelques-unes. Enfin, je me le suis jamais interdit.
D'accord. Et toi, ta sexualité à ce moment-là, elle est. Tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, etc. Ouais. T'es bien avec ça?
Ah oui, moi je suis vraiment en phase avec ça, ouais. J'ai pas de problème à avoir des attentes ou répondre à des attentes de mecs.
Ok. Et ce fameux monsieur Marie, il avait déjà eu des histoires avec des hommes?
Ouais.
Ok.
Ouais, lui, la bisexualité, il la connaissait bien.
Ok.
Ouais. Il était assez intéressant. C'est pour ça, en fait, il était très, très, très intéressant.
Je trouve ça fascinant, en fait. C'est pas tant la bisexualité, c'est vraiment le... Parce qu'à ce stade-là, c'est du mensonge.
Oui.
C'est la double vie, en fait.
Complètement.
Qu'est-ce que ça doit être dur?
Ça doit être extrêmement dur.
Tu sais, d'avoir vraiment cette dichotomie entre ce que tu aimes, tes instincts, ta vie, et le rôle... Enfin, le rôle, non, parce qu'il devait être très honnête avec sa femme et ses enfants et sa vie de... Enfin, on va dire social et de vitrine, mais qu'est-ce que ça doit être dur de jongler avec les deux?
Absolument.
De cacher les messages, de... Oh,
Mais j'en ai vraiment pris conscience après coup, quand je me suis installé sur Paris. On est resté très très longtemps aussi, enfin en bon terme.
Vous êtes devenus amis par la suite.
Et justement, ça a été l'occasion d'en discuter.
Posément.
Absolument. Et c'était effectivement fascinant. Fascinant et effrayant à la fois.
C'est la schizophrénie à ce stade-là.
À ce stade-là aussi, ouais, c'est clair. Et j'ai pris conscience, moi, en n'étant plus dans ce cercle-là, qu'à un moment donné, j'étais vecteur de cette double vie-là.
Ouais.
Et à un moment donné, oui, quand t'es plus vraiment dans l'excitation d'attendre ton mec, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était un peu chaud.
Ouais.
C'était un peu chaud.
Ouais, t'as pas eu de remords par rapport à sa femme, par rapport à sa vie ?
J'ai pas eu de remords parce que moi, je me suis jamais positionné en tant que victime ou autre, mm-hmm. parce que voilà. T'as assumé tes choix. Hein. C'est lui qui aussi, à un moment donné, est venu me chercher.
Fin... Acteur du truc, bien sûr.
Exactement. Fin...
Il a eu d'autres relations avec des hommes après ?
Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et il est en couple aujourd'hui avec un homme.
Ok. Donc il assume son homosexualité.
Il assume son homosexualité aujourd'hui. Ouais, ouais.
Okay.
Ouais, ouais. Et, mais c'est pour ça, ça a été assez intéressant parce qu'on s'est appris énormément de choses mutuellement. Moi, j'ai appris à grandir, en fait. Mm-hmm. Je me suis... ça a été une figure, comment dire, pas... Ça serait malsain de dire paternel.
Oui, mais je vois ce
mais,
que tu veux dire, c'était un grand frère, enfin,
ouais,
une épaule pour...
Il m'a appris énormément de choses, clairement. Aujourd'hui, si je suis aussi ancré socialement et que j'ai réussi dans ma vie et que je suis stable, je lui dois énormément parce d'accord. qu'il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et à contrario aussi, je pense que je... De par mon homosexualité, de fait comment je la vivais, de comment je pouvais la lui raconter et comment il la vivait
ta
avec moi ou autre.
Par rapport
ouais,
à
je
ça.
Pense que ça l'a rassuré. Et aussi peut-être qu'à un moment donné, même si ça devenait trop compliqué vis-à-vis de son double jeu, il a dû faire un choix et le choix s'est porté quand même vers ce qu'il préfère le plus et c'est vraiment vers qui il est. Et même si ça a été des années de mensonges, de cachotterie, tout ça, ça a été pour au final, à mon avis, s'émanciper et se révéler.
C'est chouette hein, ce ouais. que tu dis. Hein. C'est beau d'avoir réussi, au-delà du sexe qui se passait hyper bien, d'avoir réussi à vous apporter tant en tant qu'être humain et des valeurs. Ouais. Et...
Mais dans chouette. Mes relations, j'ai toujours. C'est vraiment tout ce que j'ai voulu. C'est ce que je cherche avant tout. Il y a la confiance, il y a l'apport, il y a l'échange. Y a le... Même en dehors du sexe, j'essaie vraiment d'être important pour des gens, que les gens soient importants pour moi. Toujours de vouloir créer quelque chose, d'échanger et juste pas être là, tu fais ta petite vie. Voilà. Je suis tout le temps dans le il faut évoluer, il faut être curieux, il faut tenter des choses, il faut tester. Enfin, voilà, c'est, pour moi, c'est hyper important et je vais vraiment au-devant des gens qui peuvent me...
Te faire du bien.
Me faire du bien, ouais.
Donc l'altruisme.
Absolument.
Ok. Donc, tu arrives à Paris, ça y est, tu as fini ton parcours professionnel. Mm-hmm. Tu t'installes, tu avais rencontré
ouais.
quelqu'un
ouais.
par des applis
ouais.
qui était donc à Paris.
Mm-hmm.
Et donc
là, recoup de foudre. Tu vas te dire, mon
t'es
Dieu.
T'es un peu un cœur d'artichaut, tu,
ouais.
tu es tout le temps amoureux.
Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça a été juste à chaque fois une question de bon timing.
D'accord.
Parce que, entre temps, je me suis jamais empêché de m'amuser, de m'éclater.
Donc, comment tu rencontres ces garçons ? C'est toujours encore les applis à ce moment-là ?
Ouais, c'est toujours les applications parce qu'en fait, je suis d'une nature très, 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 très timide. Et je me suis jamais posé dans un bar ou même en soirée chez quelqu'un ou
cap.
Même dans un club ou autre. Non, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Je suis jamais allé devant de quelqu'un. Je suis hyper. Je suis handicapé avec les gens.
Et c'est plus facile avec les applis ?
Bah le déjà moi je suis plus à l'aise à l'écrit en fait et je trouve qu'en fait on apprend énormément d'une personne à l'écrit, tu peux véhiculer beaucoup d'émotions, tu peux faire passer des messages qui sont très forts à l'écrit et je ressens énormément les gens à l'écrit avec les mots qu'ils vont utiliser, comment est-ce qu'ils vont voilà, avec le... et c'est d'autant plus simple parce que du coup t'es pas face à un rejet, t'es pas face à un jugement, tu
t'as
vois
peur
c'est
de ça
énormément.
C'est marrant que quelqu'un comme toi qui a une personnalité si affichée ait
ouais.
peur du jugement.
Ouais, énormément. Énormément. Okay. Et avant tout, j'ai peur de la déception. Et...
Que toi, tu déçoives les gens ou que les gens te déçoivent ?
Les deux.
D'accord.
Juste le fait de créer une situation où quelqu'un va être déçu, ça m'angoisse énormément.
Ah bon ?
Et que forcément, virtuellement, c'est plus simple.
Oui.
Parce que si tu sens que la personne, ça ne matche pas, tu zappes. Quoi. Tu
oui.
dis non.
T'as pas à gérer ça.
T'as pas à gérer ça. Enfin, ne serait-ce que gérer réellement une personne qui est face à toi. Et quand tu es dans une situation de malaise, moi, je ne sais pas gérer ça.
Il y a des gens qui adorent gérer le malaise.
Je
toi, t'aimes pas.
Je sais pas. Je sais pas. Et je me sens tout penaud. Enfin, je me sens con. Enfin, et en plus, je vais énormément pâtir de la situation.
Mmh.
Donc, je vais tout prendre pour moi. Enfin, voilà, je vais me mettre énormément en question. Enfin, je mûris hein, avec ça. J'apprends.
Ouais.
Voilà.
Parce que parfois, tu es complètement. Tu peux être totalement spectateur de ça. Il y a des gens qui vont s'auto, tu vois, mettre dans des situations et toi, tu n'y es pour rien. Hein.
Ouais, mais même ça me...
Ouais, d'accord.
Ah ouais, ouais, c'est...
C'est dans la compassion tout de suite, l'empathie tout de suite.
Je suis une éponge, quoi, c'est okay. ouf. Et donc, ce qui fait que les applications, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé aussi à assumer mon goût, mon type d'homme.
Alors, c'est quoi ton type d'homme ? Parce que je sais qu'il y a des catégories.
Ouais.
Et donc, c'est quoi le tien ?
Moi, je les aime ce qu'on appelle donc, des bears.
Donc, des gros ours.
Les ours, ouais, voilà. Donc, moi, je les aime.
Je trouve
aime,
ça tellement mignon, les ours. Moi, je les aime dodus
c'est
et
ça.
Poilus.
Exactement.
Okay.
Et ouais, j'aime vraiment ce bonhomme qui va être un peu trapu, qui aura une belle barbe, qui va... C'est même okay. Ce côté un peu... ouais, vraiment, genre, cette hyper virilité, tu vois, du...
Le bûcheron, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est tous les critères qui font que, en fait, on va te définir en tant qu'homme viril.
Okay.
Ce qui est ridicule
en
soi.
Oui, ce qui veut...
Mais qui, moi, me plaît énormément. et donc, ça m'a aidé, en fait, aussi, les
applis. Les applis pour...
Ouais. Et d'une, pour le dire, et de deux, pour sélectionner.
Toi, c'est quoi ton... Toi, tu es quoi dans la... Enfin, tu vois... Dans
la culture
gay. Ouais, dans la culture... non, dans la culture gay. Toi, c'est quoi ton style ? On te définit comment ?
Alors, il y a ce qu'on appelle les chasers.
Les chasers ?
Ouais, les chasers, donc, c'est bah, des mecs qui vont aimer les ours.
D'accord.
Et qui vont chasser les ours.
Ok.
Et qui ne sont peut-être pas forcément des ours.
D'accord.
Qui peuvent être bah, des plus minces, soit des,
okay.
Des,
donc,
des petites crevettes,
okay.
Des twinks, des.
D'accord.
Tout ça.
C'est incroyable toutes ces appellations.
Ouais.
Moi, je trouve ça très.
c'est un peu flippant par certains instants.
Bah, y a un côté, t'es dans une case et.
Parce que d'un côté, je trouve ça rigolo, mais j'essaie quand même de m'en détacher.
Oui.
Un petit peu.
Mais bon, comme tu dis, quand t'es dans une démarche d'amusement et que tu es encore dans l'exploration, c'est vrai que aller sur des applis et tout de suite choisir la rubrique, on va dire, des physiques qui te plaisent, bon, c'est vrai que c'est un peu plus direct et tu sais
ouais.
Où tu vas, quoi.
Et puis surtout, en plus, t'apprends à aller sur les bonnes applis parce qu'il y a des applis bah, pour les ours pour ce genre de choses là donc du coup
c'est trop pratique
mais c'est hyper pratique
trop bien
donc
tu vois un
voilà,
ours bam.
Tu sélectionnes voilà t'as cette application de cul tu vas dessus et puis
ok
voilà.
Super
et c'est fait
la vie est si simple pourquoi s'embarrasser vraiment
ouais
ok
ouais.
Donc les bears
voilà et donc ben bah, moi je rencontre un petit nounours sur Paris
ok
et donc c'est trop mignon on s'installe ensemble très rapidement en même temps pas trop le choix parce que bah moi je quitte ma province
ok
et j'ai pas de bagage en fait enfin juste mon bagage professionnel mais j'ai aucune attache donc ce qui fait que si ça match pas
ouais
ben j'ai pas le choix donc on tente on s'installe ensemble et en fait ça marche assez bien. Donc c'est très très cool.
Même la vie à deux, le quotidien,
ouais,
tout ça.
La vie à deux, le quotidien, tout ça, ça a été assez simple, assez fluide, c'était assez intéressant. Et on a pareil énormément appris l'un de l'autre et on était vraiment dans une relation de bonne confiance. C'était
okay.
Vraiment la bonne confiance et
exclusive.
Exclusive, ouais.
Ok.
Exclusive. Et
plus âgé que toi, lui ?
Pas beaucoup plus.
Ok.
Pas beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'était mon premier mec, d'ailleurs, je crois, qui était...
À peu près ton âge.
À peu près mon âge.
Et t'avais quel âge à ce moment-là ?
Je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans.
Ah ouais, tout jeune, quoi.
Ouais.
Oh, un petit ours et une petite crevette.
<C'est ça.
rire> Ok. Ouais. Ah ouais, donc tout jeune, quoi.
Oui. Ouais, ouais. Et donc, en fait, là, ben, ma vie parisienne, elle est quand même assez cool. Hein.
Ok.
Moi, je me prends d'affection, je me prends d'amour pour Paris. Enfin, c'est juste ouf.
Ouais, ça a dû être un grand changement.
Ça a été un grand changement et j'en avais envie de ce grand changement. J'avais vraiment envie de vivre autre chose.
Une vraie soif de
oui.
Bruit, de gens,
ouais,
de.
En fait,
ça.
C'est ça, tout ce qu'aujourd'hui.
Approchant 30 ans, commence à te.
Voilà,
ouais, ouais.
Tout ce qui va faire fuir les Parisiens, entre
ouais.
Guillemets, ou les gens qui vivent à Paris. Non, moi j'avais soif de tout ça.
Ouais,
j'avais besoin de
la culture, j'imagine.
Ouais, exactement, la culture. J'avais envie d'aller au musée, j'avais envie d'aller dans des parcs immenses, j'avais envie de faire des expos, j'avais envie d'aller à des concerts, d'aller au théâtre, j'avais envie de tout
et
ça.
Et justement, la vie nocturne
Et la vie nocturne, ouais, un petit peu. J'ai jamais été un gros fêtard.
Ok.
Donc ça c'était cool. J'ai aimé mes toutes premières soirées à Paris. Mais j'étais beaucoup plus friand on se fait des gros apéros qui s'éternisent chez un pote, chez l'un, chez l'autre. Et auquel cas, s'il faut, bon ben on sort, on va
sur le canal.
On va <C'est>...
comme tout le monde. Et après, on pense aux gens qui vivent auprès du canal et qui
c'est
le
ça.
Lendemain matin voient les déchets partout.
C'est
un autre sujet. On le connaît tous.
Ouais.
Ok. Et donc, et le monde gay parisien. Du coup, ça a dû être quelque chose aussi de découvrir
ouais,
la.
Bah c'est là où j'ai découvert encore plus. Bah déjà, on en parlait tout à l'heure de cette culture bear, enfin la culture vraiment tout ce qui touche à la culture, à la communauté queer en règle générale. J'ai énormément appris à Paris, mais toujours un petit peu avec beaucoup de pudeur.
Ok.
Parce que tu sais, les PD provinciaux, quand ça arrive à Paris, ça a faim, ça veut tout tester, ça a envie de s'amuser. Mais d'un autre côté, toujours.
Donc, t'étais dans ce cliché, t'avais envie de tout tester, tout. Ouais.
Bah ouais.
Mais t'étais avec ton copain.
J'étais avec mon copain, donc on en parlait.
Ok.
On essayait. J'ai jamais vu à droite, à gauche. D'accord. On était vraiment exclusifs.
Vous en parliez, mais il se passait rien.
Ouais, on en parlait et c'est pas du tout quelque chose qui était concevable pour lui. C'était vraiment.
Quelqu'un de fidèle.
Ouais. Et en fait, c'est un petit peu ce qui a amené à la fin de la relation. Mm-hmm. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, au bout de 5 ans, même si tu fais tout pour entretenir le désir...
Vous êtes restés 5 ans ensemble.
Ouais, on est restés 5 ans.
Ah ouais, belle histoire. Hein. Ouais. À chaque fois, tu vas dans les belles histoires comme ça.
Ben, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance et je suis tombé sur des...
Des bonnes personnes.
Sur des bonnes personnes. Ouais. Mais à la fin, j'avoue, je m'ennuie un petit peu.
Ouais. Bah 5 ans, t'as 19-20 ans.
Ouais, carrément.
T'as envie de...
Ouais.
Ok.
Ouais, là j'avais... Et en fait, il y avait même de... Comment dire J'avais vraiment... Enfin, tout ce que je voyais qui était autour de moi, qui était potentiellement accessible, mais que je n'avais pas le droit.
Bah ouais.
Tu vois, c'est...
Tu l'as jamais trompé ?
Non.
Waouh.
Non. Ouais.
En pensée, c'est... évidemment,
en
800
pensée,
fois.
Je t'imagine même pas. Hein.
Là, c'est...
Virtuellement, il y a eu beaucoup d'échanges.
Oui.
C'était très chaud.
Mais pour toi, du moment
réellement, ouais, non.
Virtuellement, c'est... on ne trompe pas.
Virtuellement, pour moi, ça reste du cul.
Ok.
Ouais, c'est un vecteur comme un autre. C'est un moyen d'excitation.
D'accord. C'est ton jardin secret.
Ouais, en plus.
Oui.
En plus.
Et donc, pendant ces 5 ans, donc, la sexualité, c'était chouette.
Ouais, c'était chouette.
Sexe, c'était
de
bien.
Moins en moins à la fin.
Et alors, tiens, j'ai une question. Parce que. La question de la libido, surtout dans le couple hétéro qui reste un peu longtemps, revient souvent. Donc, la perte de libido, la baisse de libido. Est-ce que dans un couple gay, surtout, vous étiez plutôt jeune, ça s'est terminé, t'avais 24-25 ans.
Ouais.
C'est pareil, est-ce que la libido entre deux hommes.
Ouais, je pense que c'est.
Ouais,
ça
n'a pas de sexualité, quoi. C'est la routine.
Je pense que non, la libido, effectivement, et la routine, non, n'a pas de sexualité. Et c'est aussi bien propre aux hommes qu'aux femmes, je pense. Ouais, je pense que même dans les couples de femmes, ça doit être la même chose.
Ok.
C'est. À partir du moment où tu passes X années avec quelqu'un que tu le connais par cœur
et que tu
sens qu'il n'y a pas d'évolution possible. Ouais. Ben, tu peux pas vraiment.
Ouais,
c'est pas
des...
possible en fait. Enfin, je pense pas. Je conçois pas que tu puisses continuer à vivre 10 ans avec la même personne et à être toujours fidèle et même ne plus. Enfin, plus avoir de rapport sexuel en fait. C'est pas possible.
Ouais, après, il y a des gens qui conçoivent leur vie de couple comme ça. Après, chacun trouve son équilibre, mais je comprends ce que tu dis. C'était une question que j'avais parce que souvent. Enfin, c'est une question qui revient souvent à la baisse de libido dans les couples qui sont longtemps ensemble. Et les hommes se plaignent, puisque moi mon propos c'est la sexualité des hommes, se plaignent souvent que leur femme n'ait plus envie alors qu'ils ont envie. Mais toi tu me dis dans ton expérience personnelle qu'effectivement même entre deux mecs.
Mais en fait on se rend
arrive.
Compte que, je sais pas si c'était pareil pour lui, mais moi je me rendais compte j'avais peut-être plus forcément envie de lui, mais j'avais toujours très envie.
D'accord.
Mais.
C'est pas ta baisse de libido globale,
c'était vraiment le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit installé et quelque chose que je connaissais trop.
Par cœur, ouais.
Ouais, par cœur. Et comme je suis vraiment d'une nature très curieuse, moi j'ai commencé aussi à découvrir, j'avais envie de tester des choses en fait, clairement.
Okay. Et dans votre sexualité, vous ne testez rien ? Vous ne
Si, on testait des choses de temps en temps, franchement, on s'amusait bien, c'était cool. Mais j'ai toujours besoin de plus.
Okay.
Moi, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de tester, même si j'aime pas, j'ai besoin de tester.
D'accord, tu veux dire, je l'ai quand même
ouais,
fait, j'aime, j'aime pas.
Genre,
je...
check, allez. Okay. Et si je kiffe, bim, on va plus loin.
Et puis, comme tu le disais, la sexualité évolue vachement.
Ouais.
T'as pas la même chose à 20 ans qu'à 25,
ouais,
que tu aimeras à 35 et 45.
Exactement.
Donc, c'est vrai que si la personne avec qui tu partages ton lit est pas dans cette dynamique-là, c'est vrai que ouais, tu peux patiner un peu. Ok, donc du coup, cette histoire se termine au bout de 5 ans. Vous êtes restés aussi amis ?
On a essayé, mais alors trop compliqué.
Ouais, difficile.
Ouais, c'est quand même compliqué. Ouais, moi j'ai vachement souffert de ça en fait.
De pas avoir gardé une relation ?
Non, c'est moi qui ai mis déjà un terme à la relation.
Okay.
C'est moi qui ai amorcé la situation. J'ai dans un premier temps voulu essayer de la faire évoluer. mais je me suis rendu compte que non, c'était pas possible de son côté. Et que, en fait, ben, du mien non plus. Donc j'ai commencé à m'amuser, j'ai commencé à rencontrer des gars. À partir du moment où on s'est dit qu'on n'était plus ensemble,
d'accord.
Ben, là, j'ai, c'était la porte ouverte à tout, tout et n'importe quoi.
Donc là, toujours les applis.
Toujours les applis. Non, là, je rencontre des gars, genre en soirée, même avec des potes, chez des potes, voilà.
Et là,
en fait, là, c'est plus facile parce que déjà, je me suis créé un cercle d'amis et et ben forcément, bah tu rencontres nouvelle personne. Enfin, tu apprends à la connaître.
Puis dans la communauté que tu souhaites, avec dans l'entourage que tu souhaites. Ok.
Donc bah là, c'est déjà plus facile. Enfin, on passe peut-être pas forcément que par les applis, mais il y a les deux, quoi. Tu sais que il y a des gars que tu connais, que tu lui envoies un message, tu le vois en soirée. Enfin, c'est facile de s'amuser.
Et tes plans cul, tu les gardais un peu ou c'était vraiment des one shot?
Ah, ça dépend. Ouais. Il y a des, y a vraiment des plans cul qui étaient réguliers. Il y a des plans cul, non, c'est vraiment du one shot. Il y a pas de règles en fait. Je sais pas, c'est facile en fait de baiser entre mecs.
Ouais.
C'est quand même très très simple. Enfin,
t'as pas le parallèle avec les femmes puisque t'as jamais essayé, mais pourquoi tu dis que c'est plus facile de...
Bah, je me rends compte, enfin on en parle beaucoup, puis même je suis pote avec avec des filles qui parlent de la sexualité aussi hyper facilement, elles sont très libérées. C'est super chouette et en fait ben je me rends compte en discutant.
Comment tu l'expliques que c'est plus facile?
Ben, je sais pas, genre, peut-être de la testostérone. Un taux de testostérone beaucoup plus élevé, tu vois.
Tu penses que la pulsion est...
En fait, je pense que les gars, entre eux, ils y vont pas par quatre chemins. Si tu veux vraiment baiser, tu baisses ton pantalon, tu y vas, on s'en fout comment c'est fait. Enfin, tu kiffes, tu peux y aller, en fait. C'est vraiment, genre, c'est une impulsion, c'est même très mécanique, en fait.
C'est bestial.
Ouais, c'est bestial. Enfin, je dirais pas que tu peux bander sur demande, mais tu peux... Enfin, tu peux être très facilement, très rapidement, hyper excité et échauffer un mec très rapidement. Enfin, je sais pas, comme si les mecs étaient tout le temps un peu sur le feu, tu vois. Genre, on peut y aller. Ok, vas-y, on y va.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce que à la fois t'as un côté hyper intellectuel et très, tu vois, dans la réflexion, presque dans une certaine forme de philosophie. Et à côté de ça, tu définis quand même la sexualité masculine, pas forcément la tienne, mais la sexualité masculine, quelque chose de très bestial et très animal.
Ouais.
C'est rigolo cette dualité.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Mais bon, après...
C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Mais peut-être parce que j'ai aussi construit... après, à construire ma sexualité aussi comme ça. C'est
d'accord.
Parce que... j'ai... Ouais, je pense que j'ai aimé baiser de telle façon, de telle façon.
Et aujourd'hui, faire l'amour de façon un peu plus...
Et voilà. Et que si jamais je veux, ben, vraiment, aujourd'hui, d'un moment plus doux, plus câlin, plus tendre, je sais comment m'y prendre. Et si j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus hard, ben, je sais que je peux y aller sans aucun problème.
D'accord. Et t'as fait les deux extrêmes, quoi.
Oui, ouais, voilà. Ouais, carrément. Oui, je suis... Oui.
donc, t'as cette période-là où, effectivement, tu consommes, du coup, avec et les applis, les soirées, pas mal de mecs. C'est combien, pas mal de mecs?
Oula.
Je fais toujours cette... Je demande toujours, ça rentre dans cette pièce ou pas?
Ah oui, je pense que tu les mets tous les uns côté des autres.
Très serré.
Non, il y a moyen de faire une bonne soirée si on les met tous là quand même. Hein.
C'est ça.
Mais oui, non, ça rentre.
Bon, la pièce est très grande. Hein.
Ouais, quand même, hein. Faut le dire.
D'accord, non. Ok.
Non, mais oui. Ça a été... non, c'est pas du tous les jours, mais si je voulais, je...
D'accord, donc... Et puis en plus, activité sexuelle intense.
C'est tombé dans un moment... Bah forcément, tu sors d'une relation où tu t'es un peu ennuyé. Mm-hmm. Là, t'as clairement envie de tout donner, quoi.
Oh, puis t'as 25 ans,
et
quoi.
Et ouais, et aussi. Et en plus de ça, je suis tombé dans une période où professionnellement, bah, c'est cool, ça marchait, mais c'était un peu plus creux, donc j'avais beaucoup de temps pour moi. Mm-hmm. Donc bah, je me suis donné, quoi, ça y allait.
Je me suis donné.
Moi, je me suis donné.
Ok. Donc ça dure quoi, 2 ans?
Oui, à peu près, ouais. 2 ans et demi, ouais, je dis. C'est ça.
D'accord. Et là, du coup, on arrive quasiment à maintenant.
On arrive quasiment maintenant. Ouais.
Et alors maintenant, c'est quoi ta vie sexuelle?
Ma vie sexuelle, elle est maintenant en couple avec un gars.
C'est étonnant.
Oh
bah, c'est étonnant. Donc t'es en couple avec un garçon.
Je suis en couple avec un mec.
Est-ce qu'il est poilu?
Ouais.
Est-ce que c'est un bear?
Oui.
Bon, ça c'est déjà cohérent.
C'est déjà très cohérent. Ah oui, mais je sais qu'en fait, il faut que ça matche, il faut qu'il y ait tout, en fait. Hein.
D'accord.
Autant je peux m'amuser avec des mecs qui sont pas dans ma catégorie. Enfin, ils vont pas avoir le physique type de ce que je recherche.
Mais sur le moment, c'est rigolo.
Pour construire quelque chose, ouais, j'ai besoin vraiment de tous les matins, si je me lève, me dire putain, mon mec, il me fait vraiment bander tous les matins parce que je le trouve trop beau, quoi. Et qu'en plus, il m'apporte quelque chose. Enfin, c'est... Ouais, par contre, pour vraiment construire quelque chose de solide, j'aime ce physique-là. C'est vraiment ce que je vais rechercher.
Ok.
Ouais. Donc,
Tu es en couple avec lui ?
Je suis en couple avec lui.
En plus, il est très joli parce que je sais à quoi il ressemble. C'est vrai qu'il est très beau.
Ouais.
T'as beaucoup de chance. Donc, vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Depuis un an et demi, presque deux. Ben voilà, ça s'est fait aussi sur les applications. Voilà, ça a matché et très rapidement on s'est rencontrés et tout fonctionnait très bien. Enfin, sexuellement, c'est bien entendu. Sur le plan émotionnel, on s'est très bien entendu aussi. Donc c'est cool. Ça c'est. Au départ, c'était pas écrit que vraiment il allait se passer quelque chose.
Sur du long terme.
Ouais. Parce que même moi, j'étais pas...
T'étais encore dans cette boulimie d'amusement de...
Alors j'étais moins peut-être dans la boulimie.
D'accord,
parce que,
t'avais un peu plus de place.
Ouais. Là, je m'étais vraiment bien amusé. Et j'arrive plus, par contre, dans un moment où j'ai peut-être plus envie de consommer, mais qualitativement, plutôt que quantitativement. Et non, c'était pas écrit qu'il allait vraiment se passer quelque chose sur du long terme.
Lui, il était en couple, il était célibataire.
Il était célibataire. Ouais, il était célibataire. Et ce qui nous a rapprochés, en fait, étonnamment, c'est qu'en fait, là, il s'est passé quelque chose d'assez marquant dans ma vie. Il a découvert qu'il était séropositif.
Donc ton compagnon.
Mon compagnon, ouais, a découvert qu'il était séropositif.
Donc vous étiez ensemble depuis combien de temps ?
Depuis 2 semaines.
Waouh.
Ouais. Et en fait, moi, ça m'a fait... Il y a eu un gros boom, en fait. Quelque chose qui a explosé en moi. Et j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression que genre le sol s'ouvrait sous mes pieds, que j'allais perdre quelqu'un, que j'allais moi me perdre. Enfin bref, j'imagine tous les sols, tout était possible, inimaginable. Parce que on m'a tout le temps, enfin j'ai eu une éducation, enfin pas d'éducation que j'ai eu, on m'a appris que c'était quelque chose de très dangereux, de très mal. Bah,
t'as grandi dans les années où le sida était synonyme de mort, donc
ouais.
Enfin.
Et j'ai toujours, en fait, enfin hormis vraiment mes amis proches, j'ai vraiment évolué à Paris au début vraiment dans un univers où c'est quelque chose qu'on fuyait comme la peste, même il y avait du mensonge, il y avait de la mauvaise information, il y avait.
Toi, t'as jamais pris de risque.
J'ai jamais pris de risque. Et en fait, ça m'a fait énormément flipper.
J'imagine.
Mais d'un autre côté, en fait, je me suis dit, putain, mais ce gars-là, en fait, il va se retrouver d'un coup tout seul parce que en parler, c'est hyper compliqué. Peut-être qu'il n'aura pas envie d'en parler et je peux pas le laisser tomber. Enfin, je peux pas lui dire, ok, mec, t'es séropo, bah au revoir. Je me voyais pas faire ça, en fait.
Mais ça faisait que 2 semaines que vous étiez ensemble.
Ouais, ça faisait que 2 semaines.
Mais c'était. Toi, t'avais déjà senti que c'était quelque chose d'un peu particulier, cette rencontre, ou...
Ben, ouais, franchement, j'avais eu... j'ai eu un coup de cœur, quand même. Je me suis vraiment pris d'affection pour ce garçon-là. Et surtout, en fait, humainement, je me suis dit, putain, ok, mec, t'es malade, c'est mort, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je veux pas avoir dans ma vie, que je connais pas.
Oui, ça fait super peur.
Ouais, voilà. Et en plus, en étant hyper hypochondriaque, c'est très compliqué à gérer.
Ah oui.
Mais vraiment.
Ah oui, tu te fais violence.
Mais je me fais grave violence. Et
c'est une hyper belle preuve d'amour.
Et parce que je me dis, putain, j'ai pas envie que ça m'arrive, quoi.
D'accord.
Franchement, en vrai, on est. Parce que après coup, j'ai eu l'histoire aussi. J'en ai parlé. Enfin, j'en ai parlé sans forcément parler de mon copain, mais j'ai eu plus de facilité à en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même relativement quelque chose de très tabou et que des mecs se font contaminer.
En fait, c'est très tabou, mais il y a tellement de garçons séropositifs.
Ouais,
mais
énormément.
Tellement.
Énormément. Et j'avais pas envie de tomber dans ce schéma de sérophobie.
Complètement.
Donc non, je me suis dit, mais putain, mais d'une, tu vas pas le laisser tomber. Et en plus, de deux, tu vas apprendre sur toi-même. Et tu vas te faire violence, quoi. Parce que ça se passe très bien. Qui est encore très tabou, je trouve. Chez les hétérosexuels.
Mais ce qui est très paradoxal, c'est que c'est très tabou et que tout le monde en a peur, mais que cette nouvelle génération, dont toi t'es un peu au-dessus, mais vraiment la génération des gens qui ont une toute petite vingtaine aujourd'hui ne se protège quasiment
pas.
Ils ne sont pas
au courant. C'est flippant.
C'est fascinant, ça, quand même, de se dire que nous, on a été vraiment dans une. Je me rappelle au collège où t'avais la capote à 1 franc à l'époque.
Ouais. Mais même nous, les données, je me rappelle.
Oui, les
collège.
Données, quand il y avait les cours de SVT, etc. Il y avait. Et puis vraiment, le sida était. Aucun rapport n'était concevable sans préservatif.
Ouais.
Enfin, c'était même
c'était inimaginable.
Même si t'étais vierge avec ton premier copain, tu le faisais avec une capote.
Clair, c'est clair.
Alors que là, ils ont 20 ans. Et comme on ne voit plus bah, les images de malades du sida...
Il n'y a plus du tout, tout d'informations, de prévention.
Et donc, du coup... Il apprend qu'il est séropositif. Ouais. C'était récent, ça, de contamination.
C'était récent.
Okay. Donc vous commencez les démarches ensemble. Il va voir les médecins.
Tout ça, il est
tout de suite pris en charge.
Tout est pris en charge très très rapidement, très bien même. Et du coup, donc ce qui a permis aussi de se stabiliser très rapidement.
D'accord. Donc sa charge virale tombe à zéro.
Exactement.
Toi, tu prends un traitement, tu prends quelque chose.
Non, moi je prends rien du tout. Ok. Et, parce que je ressens pas le besoin.
Et que vous aviez pas eu une pratique.
Non. Ouais, on n'avait pas eu de pratique à risque, donc il n'y avait pas besoin. J'ai quand même fait hyper attention, des dépistages hyper régulièrement.
En plus, c'est pour donc oui. N'oublions pas le level de stress.
Autant te dire que non, dès que j'avais un doute, j'hésitais pas à faire ce qu'il fallait. Mais tout le temps dans la communication, dans la confiance et surtout dans la recherche, tu vois, genre tout le temps vouloir évoluer en mieux. Quoi. Je me voyais pas me dire... Putain, je me retrouve face à un mur qui me fait peur, que je trouve un peu insurmontable, mais je vais rien faire et puis je vais faire marche arrière. Pour moi, c'est pas possible.
Okay.
Et
donc tu l'accompagnes.
Je me suis vraiment fait violence et violence. Oui, à l'époque, je me suis fait violence. Aujourd'hui, je dirais que c'était assez facile, mais je l'accompagne. Je fais tout ce qu'il faut pour parce que même temps, moi aussi, j'ai envie de m'informer, j'ai envie d'apprendre. Et en fait, je me dis que je veux pas que ça soit un frein à ma sexualité.
Ouais.
Avant tout, parce que même si ce garçon-là, je l'aime beaucoup. Je veux qu'on continue à s'amuser, je veux qu'on continue à prendre notre pied ensemble et que qu'il ait pas peur et que j'ai pas peur en fait. Donc c'est hyper important de faire ça ensemble.
Du coup, ça, le fait qu'il soit porteur, alors qu'il soit séropositif, mais là charge virale zéro, donc c'est comme si, enfin les gens ne savent pas forcément, ça veut dire en fait qu'il est non contaminant.
Il est non contaminant, ouais.
Et donc du coup,
il ne transmettra pas le virus.
Il est comme quelqu'un
virus.
Qui n'a pas. Donc,
exactement. Oui, voilà, c'est ça.
Donc
c'est
vous pouvez avoir des relations non protégées.
On a des relations non protégées.
Et donc ça, il n'y a aucun risque.
Il n'y a aucun
moment
risque.
Où lui prend sa trithérapie.
Exactement.
D'accord. Donc ça, c'est important.
Oui, oui.
Après, effectivement, la trithérapie, c'est à vie.
Oui.
Donc, vous savez que vous allez avoir ça ensemble si votre histoire, et je vous souhaite, continue très longtemps à vie.
Ouais.
Ça fait partie de votre quotidien d'en parler ou plus du tout ?
Non, du tout. Ah, pas du
Parce
tout.
Parce que j'imagine que les premiers mois ont dû être très difficiles.
Ouais, carrément. Je pense qu'on en a. On en parlait, mais pas trop non plus, parce que je comprenais qu'il fallait qu'il gère un petit peu la chose aussi à sa façon. Et en parler, ça lui faisait quand même du mal.
Tu connais un peu les circonstances de sa contamination ?
Pas trop. Et j'ai voulu savoir, j'ai un peu gratté, tu vois, j'en pense à avoir comment.
Ouais, t'as senti que c'était pas.
Mais tu sais quoi, je me dis, c'est déjà quand même quelque chose d'assez chiant à gérer. Ça va quoi, on va pas non plus.
Oui, et puis tu peux pas refaire l'histoire. Hein.
Oui, c'est ça. De toute façon, voilà, maintenant c'est fait. Et mais non, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on vit. En fait, c'est plus comme il y a 10 ans, tu vois, ou même si c'était il y a pas si loin que ça. Enfin,
oui,
où tu devrais prendre 3 cachets parce que tu en prenais un pour contrôler le virus, un autre pour les effets secondaires, et un autre pour gérer autre chose.
Oui, maintenant. Oui.
C'était quand même relativement plus compliqué aujourd'hui.
Oui, comme
tu prends,
dis, les effets secondaires étaient très très lourds il y a 10 ans.
Hyper lourds.
Hein. Les gens qui étaient porteurs.
Non, aujourd'hui, les effets. Il y a encore des gens qui ont des effets secondaires parce qu'il existe encore plusieurs traitements, même s'ils essayent de réduire le nombre de traitements, parce qu'on arrive quand même aujourd'hui à des très 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 bons traitements. Tu prends ton cachet le matin ou le soir et c'est réglé, quoi. Tant que tu le prends toutes les 24 heures, c'est fini. Donc c'est comme si tu prenais tous les matins ton petit
ta petite vitamine,
quoi.
Tout
va
bien. Je comprends.
Et c'est aussi simple que ça, en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Oui. En fait, il faut rendre la chose simple, c'est pas un fardeau. C'est je trouve qu'aujourd'hui il y a des gens qui vivent avec le cancer et c'est beaucoup plus compliqué. Enfin,
complètement.
Aujourd'hui, on vit.
Oui, et puis t'as même des maladies chroniques qui sont beaucoup plus lourdes et difficiles à vivre.
Absolument.
Et donc, oui, effectivement. Donc ce début d'histoire qui est quand même pas simple, mais qui fait que votre histoire est solide.
Ouais.
Donc là, ça va faire 2 ans que vous êtes ensemble.
Ouais.
Et donc, c'est votre sexualité, comme tu dis, j'ai un peu anticipé, mais j'ai compris que vous continuez à vous amuser.
Ouais.
Donc, ça veut dire que vous avez instauré une sexualité qui est un petit peu différente, plus libre.
C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, ouais, carrément. Et disons qu'on s'interdit pas, ça a été assez assez clair dès le départ. Ben voilà, c'est cool.
Il est plus vieux que toi ?
Ouais, il est plus âgé que moi, ouais.
Un vieux nounours.
Ouais, je suis pas si vieux que ça quand même. Mais oui, j'ai jamais été avec des mecs plus jeunes que moi, je peux pas. Et Qu'est-ce que je disais ?
Et tu disais, donc vous vous amusez ?
Oui, on s'amuse bien, on travaille sur ça. Et
Alors ça veut dire quoi, bien s'amuser ? Ça veut dire,
bien s'amuser, c'est-à-dire qu'on ne se frustre pas, qu'on en parle, que si un truc ne va pas, on se dit franchement, là, ça m'a fait chier. Et qu'on évite de s'interdire des choses et que si ce n'est pas possible pour l'un, on fait en sorte que quelque chose devienne possible, en fait.
Alors concrètement, ça donne quoi ? Parce que les principes sont assez cool, mais je voudrais bien savoir concrètement.
Ça donne concrètement que si on s'amuse très bien ensemble tous les deux, que si on doit intégrer un autre mec à notre couple, on peut. Que d'accord. Si on veut aller voir à côté, on peut.
D'accord.
Et que...
Vous le dites, ça ?
Si on doit se le dire, on se le dit. Oui,
d'accord.
Carrément.
C'est-à-dire que si toi, tu craques sur un mec et qu'il y a une tension sexuelle et que tu as un rapport avec lui...
Tout dépendra de comment... Moi, je sais que j'ai pas forcément envie de savoir.
Enfin, d'accord, c'est ça.
Un petit peu. Alors, c'est assez pervers. Mais parce que. Il y a le côté où j'ai envie de te dire, vas-y, dis-moi avec qui t'as couché, parce que ça m'excite énormément.
Ok, donc ça, c'est dans le jeu amoureux.
Ouais, carrément. Mais il y a l'autre côté où je me dis, si tu t'es fait plaisir, c'est aussi un peu ton jardin secret.
D'accord.
Tu vois. Mais des fois.
D'accord. Donc, ramener un mec, ça, c'est entre guillemets, c'est la tierce personne pour vous être dans le jeu amoureux.
Ouais.
Donc, ça, c'est plus votre. Pardon à ces jeunes hommes, toy.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et après, si vous allez vous, chacun, voir un petit peu ailleurs, ça fait partie de votre jardin secret.
Ouais.
Mais vous pouvez l'intégrer dans vos scénarios amoureux, etc.
Oui, oui, oui. Je pense que ouais, ça nous dérange pas, carrément.
D'accord. Lui, il a une sexualité plutôt open aussi ?
Oui.
D'accord. C'est quelque chose que vous avez motivé tous les deux.
Ah oui, oui. En fait, ça a été. C'est pour ça que ça a été assez fluide, en fait.
D'accord.
C'était vraiment.
Oui, c'est pas toi qui pars de ton expérience. Un peu casanière. T'es dit, ok, je veux plus jamais ça.
Vu que moi j'ai vécu ça, j'avais peur de retomber dans ce schéma-là.
Ouais,
et c'est pour ça que très rapidement, je lui ai dit. J'ai ressenti le besoin de lui en parler. Je lui ai dit, écoute, ça se passe super bien. Je suis très content. Par contre, à un moment donné, il est peut-être possible que moi je m'ennuie très rapidement. Parce que de par ma nature, j'ai envie de tester des choses.
T'as vécu déjà le côté un peu genre.
Ouais, voilà. Et que si je me frustre, je suis triste.
Le couple libre, c'est quelque chose qui existe beaucoup chez les gays.
Ça existe pas mal, ouais. Ouais, ouais. Je dirais pas, c'est pas cool. Enfin, si, c'est courant. C'est pas propre à tous les couples.
Mm-hmm.
Mais oui, je pense.
T'es le bon exemple. T'as fait un peu les deux.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais pour le coup, aujourd'hui, je me reverrais pas vivre avec quelqu'un qui veut être exclusif.
Tu penses que c'est un peu la clé pour durer dans le temps ?
Je sais pas si c'est une clé, parce que.
C'est quoi les bons ingrédients ?
Pour un bon couple libre. Pour un bon couple libre.
Donne-nous ta recette.
Pour un bon couple libre. Non, mais c'est juste qu'il faut. On est fidèle. Enfin, on est fidèle à nos sentiments. Et ça, c'est la base en fait d'une relation saine. C'est que moi, je sais que mon cœur ne sera que pour lui. Enfin, actuellement, n'est que pour lui, et mes sentiments ne vont que pour une personne. Donc, à partir du moment où tu sais
par contre, ton cul.
Par contre, c'est ça.
Ça, c'est un peu.
Ça, tu peux l'offrir plus facilement.
C'est Arletty qui disait mon cœur est à la France et mon cul est à l'international. Un truc comme ça.
Oui, je crois que ça,
c'est beau.
Comme ça. Ouais.
Ouais, d'accord.
Mais c'est un peu ça.
Ok.
C'est un peu ça.
L'international. Ambitieux. Non, mais je comprends ce que tu dis.
Non, mais c'est complètement ça. Et puis, en parler. Enfin, je veux dire, les couples libres, moi, j'ai des schémas de couples libres autour de moi qui sont différents les uns des autres. J'ai des couples de potes qui sont libres mais ne se ressemblent pas.
Tu penses qu'il faut communiquer ?
Je pense qu'il faut communiquer, ouais, carrément.
Parce que sinon, c'est quoi ? C'est de la tromperie un peu.
Ouais, tu rentres dans un peu malsain, tu sais, genre l'autre va penser que voilà, t'as eu un plan cul, puis il dit mais non, il s'est rien passé. Alors que si, enfin, tu pues le cul et que ça se voit, et forcément, si t'en parles pas, c'est assez étrange. T'es plus dans quelque chose du on n'a pas envie de l'assumer, mais par contre,
on dit que
voilà.
Pour histoire de pas. Et le polyamour, toi, t'y crois ?
Le polyamour,
donc là, pour le coup,
je ne sais pas. Je sais pas si j'y crois ou pas. En vrai, vu que j'ai pas eu l'occasion de vivre cette expérience-là, j'ai des connaissances qui sont en couple polyamoureux. Ça se passe bien.
Jusqu'au moment où.
Non, mais ça se passe bien. Donc c'est cool pour eux tout ça. Moi, je sais pas de par ma nature comment je pourrais l'intégrer à mon quotidien en fait. Enfin déjà, j'ai tellement peu de temps pour m'occuper de mon mec et de moi que un troisième, c'est chaud. Et donc, surtout, par exemple, dans notre schéma de couple actuel, un polyamour, c'est pas possible. Mmh. Ouais, on est trop exclusif au niveau des sentiments.
Dans vos sentiments.
Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même de l'exclusivité dans notre couple. Et dans un couple libre, il y a quand même de l'exclusivité. Même si tu partages ton partenaire, même si tu vas être dans un rapport sexuel lié au condolisme ou autre, tu...
Ça, c'est quelque chose que vous pratiquez ?
On n'a pas encore pratiqué, mais je pense que ça peut, ouais, être, ça peut être une expérience qui
se tente. Donc, pour rappeler, ça, c'est un des partenaires qui regarde l'autre partenaire, ouais, avoir un rapport sexuel. Ouais.
Moi, je pense que ça me plairait bien, ça.
D'accord.
Ouais.
Donc, ok. Donc, on voit l'autre en train de prendre du plaisir et on est
spectateur.
Ouais, c'est ça, on est spectateur.
Ouais.
Contrairement à un plan à trois où on joue tous les trois
ensemble. Exactement. Ouais, ouais.
Ok. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant surtout que vous avez l'air de beaucoup l'anticiper, en discuter, l'intellectualiser, ouais, avant de faire les choses.
Ouais ouais ouais, bah c'est le béaba en fait.
Ouais. Pour que ça se passe ouais, sereinement. Ça nous amène donc doucement à parler du futur tous les deux.
Mm-hmm.
Donc tu parlais effectivement de ces pratiques-là. Il y a d'autres choses que vous avez envie de tester tous les deux, ou même toi tout seul?
Moi, il y a tout le truc que j'ai testé.
Bah...
Il y a tellement de choses.
Sauf
que
les
j'ai
filles.
Sauf les filles. C'est vrai que. Quoique, encore.
Attends. Sur un malentendu.
Non, pas sur un malentendu, mais je serais pas contre partager, tu vois, genre un moment avec un couple hétéro.
D'accord.
Où ils sont bi et voilà. Moi, franchement, je me verrais pas avoir un rapport sexuel avec.
Juste avec une nana.
Avec la nana, ouais.
Non, merci, madame.
Mais je peux pas. Merci, non, merci.
Mais les seins, tout ça, ça ne te fascine pas?
Non, 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 du tout. Du tout.
C'était tellement cash. Alors, pas du tout.
Absolument.
Vraiment pas.
Mais par contre, profiter de son mec, oui.
Oui, bah oui.
Mais qu'elle soit là, ça me dérangerait pas.
Non.
Tu vois, et que lui s'amuse avec sa femme, pourquoi pas, je m'en fous.
Et.
Même au contraire, je pense que ça pourrait me plaire.
Un homme trans.
Pourquoi pas aussi.
Donc il n'a pas de pénis.
Il n'a pas de pénis, mais d'apparence c'est un homme.
Et ça te va.
Ça m'intrigue. Ouais.
Enfin après pas de pénis, il y en a qui sont opérés, d'autres qui sont pas opérés.
Oui, il y en a qui sont opérés. Ouais, bah ouais, bah ouais.
Ok. Mais... Ça, l'apparence masculine, ok. Mais s'il y a pas forcément l'attribut génital, c'est pas très grave.
Non, c'est pas très grave. Ouais, ouais, parce que je sais qu'on peut s'amuser vraiment différemment.
D'accord.
Même si un vagin, c'est pas ce vers quoi je vais
en tendre.
Ouais, voilà.
Oui,
je pense que je serais curieux. En fait, ça serait vraiment l'occasion qui ferait que oui, je pourrais.
Oui, après les hommes trans, on est plus proche d'une vulve avec un diclite que ouais, que vraiment, tu vois, la vulve, etc. Mais du coup, t'es pas fermé à toutes ces expériences-là?
Non, 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 je suis pas du tout fermé.
Et dans les pratiques pures, au-delà de on a parlé des partenaires, mais du BDSM, des choses comme ça, c'est quelque chose auquel tu tendrais ou pas du
ouais,
tout?
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai déjà eu des pratiques BDSM.
Donc plutôt en domi.
Plutôt en dominant et en dominé.
Dominant et dominé.
Ouais, les deux.
Versatile.
Ouais, carrément. Ah mais oui, les deux me vont très très bien. Et c'est pas quelque chose que je vais rechercher au quotidien dans mes pratiques sexuelles, le SM, enfin n'importe quelle pratique du SM, quel que ce soit. Mais ouais, j'ai pu tester des trucs qui me plaisent. Puis des fois, de toute façon, tu vas le SM et le BDSM, des fois la limite est très très proche, tu sais, pour
c'est
tomber
quoi,
dans
ouais c'est quoi là justement la limite,
bah, ne serait-ce que quand t'es dans un rapport de domination, tu vois, ne serait-ce que même mental, je trouve que t'es déjà dans un rapport un petit peu SM.
D'accord.
Parce que peut-être que j'ai des bêtises, mais c'est moi mon ressenti de la pratique, mais qu'à partir du moment où tu prends sexuellement le pouvoir sur quelqu'un, ben t'es déjà dans un rapport de force en fait, tu vois ce que je veux dire,
et de même... domination, oui.
Ouais, exactement, donc on y est déjà pour moi, mais c'est du soft après. Oui. Quand on a des pratiques un petit peu plus hard, oui, quand tu
on s'attache, des choses comme ça,
ouais.
Où il y a d'accord, et il y a des formes de fétichisme chez toi?
Chez moi, est-ce qu'il y a des formes de fétichisme? Ouais, j'aime bien les cordes.
Des cordes, donc shibari et compagnie.
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien les cordes. Et après, j'ai pas un domaine. Non, j'ai pas un fétiche attitré.
J'étais fascinée de découvrir. Alors, c'est pareil beaucoup chez les gays. Uh-huh. Le fétichisme des baskets.
Ouais, les sneakers, c'est un truc de ouf.
Alors ça m'a fascinée.
Ouais.
Les mecs sont dingues avec ça.
À fond. À fond. Mais moi j'aime bien jouer de ça, mais pas pratiquer, mais juste savoir que ça fait kiffer des mecs de porter des belles sneakers, me régale.
C'est fou ça.
Grave. Et il y a des fétichismes. Je pense qu'il y a autant de fétiches que de personnes, et en fait.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Tu vois,
il y a des choses très, parce qu'il y a des trucs un peu clichés de la norme hétéro qui sont, alors là pour le coup on rentre dans les talons aiguilles, le cuir,
ouais,
latex, les sous-vêtements, les bon, les trucs un peu clichés, tu vois, que tu connais, mais
ouais,
c'est vrai
qu'il y a ces clichés là très très forts. Enfin, clichés, je sais pas, oui, on peut dire que c'est des clichés, mais il y a ces codes aussi très très forts chez les gays, hein.
Donc, dans les matières,
ouais, dans le cuir, le latex, les sous-vêtements à fond. Hein.
Okay.
Beaucoup de mecs qui portent des jockstraps, qui sont fans de
alors,
chaussettes.
Ça, la chaussette. Les jockstraps, c'est les caleçons où les fesses sont à l'air.
Ouais, c'est les slips, ça, avec les slips, les gros élastiques qui passent sous les fesses. Ouais,
d'accord. Donc t'as les fesses à l'air.
Ouais.
Mais
en fait, c'est prévu pour avoir pour jouer au sport. En
c'est,
fait.
Ça. C'est ça. Ah oui.
Et avoir une coquille en fait, c'est les.
Ah oui,
les
c'est
rugbyman
comme.
Et
ah
les,
oui, les boxeurs, tout ça, ils portent ça.
Et alors les boxeurs, je sais pas. Mais
ah, je crois qu'ils ont des. Oh si. Ouais. Oh, vaut mieux. Hein. Vaut mieux.
Mais oui, c'est initialement un sous-vêtement.
D'accord, de sportif. Ouais. Et mais là, ils le portent sans rien et les fesses à l'air.
Et ouais. Et c'est
avec des belles couleurs flashy.
Sous-vêtement qui a été très détourné par la communauté, par la culture gay. Ah oui.
Ok, très rigolo. Ouais,
tu vois souvent en soirée le jock, comme on dit, qui dépasse du pantalon ou du short.
Et est-ce que ça a des codes ? Il y a des couleurs, il y a des choses, il y a des
absolument,
codes ?
Absolument, il y
oh
en a
là
plein.
Là. J'étais sûre.
Mais on pourrait vous faire êtes... juste une émission que sur les codes.
Vous êtes si organisés, vous, la communauté gay.
Alors nous, on a les couleurs. On a
non, c'est trop, c'est comme le métro, tu sais exactement où tu vas.
Mais ouais, c'est
d'accord.
Ça. Et à droite ou à gauche, et
alors,
tout ça.
Alors c'est quoi, par exemple ? Donne-moi deux, trois exemples.
Bah, par exemple, le blanc, ça va être le sperme.
D'accord.
Le rouge, le fist.
D'accord. Donc
le jaune, l'uro.
D'accord. Donc c'est assez simple.
Après, tu pars dans des couleurs, t'as des camaïeux quand même un petit peu intéressants.
Il y a un dégradé. Alors attends, si je comprends bien, le mec, c'est incroyable.
Je les connais pas tous par cœur, mais il y en a plein.
D'accord.
Plein,
portes du jaune, c'est que tu pratiques l'urologie.
Alors ça dépend comment c'est porté.
Ah.
Mais savoir, parce qu'en fait, tu peux avoir. Dans les années, je crois que c'était 70, 80, t'avais l'histoire du bandana dans la poche arrière du fut.
Mmh.
Et soit si tu le mettais à gauche ou à droite, ça veut dire que t'étais actif, passif, enfin donneur ou receveur. Et la couleur, du coup, indiquait ta sexualité.
Incroyable.
Le noir, si je dis bien, c'est le cuir, enfin voilà.
D'accord, tes préférences et tout
ouais,
ça.
Ouais, voilà. Et en gros, t'affichais ta préférence, justement, et là
avec
où tu l'as porté.
Bandana.
Ouais, le bandana. Et ensuite, maintenant, on joue un petit peu avec ça. Tu as les codes couleurs, effectivement, genre au niveau des chaussettes ou au niveau de tes sous-vêtements, genre de choses.
Faut être bien renseigné quand même.
Ouais, c'est très riche.
Faudrait un guide. Je suis sûr que ça existe.
Ça existe.
Évidemment.
Cherche le code couleur, justement, sur Internet, tu le trouves facilement.
Ah, ok, je vais regarder. Ça m'intéresse.
C'est très, très intéressant.
On parlait du RO, qui est une pratique dont William avait parlé. Ainsi que les partous, c'est des choses pareilles que vous allez essayer, que vous avez envie d'essayer.
Moi, l'uro, non.
Bof.
Non, j'avoue que je suis pas très branché odeur déjà, donc et moi, je trouve que l'odeur de la pisse, bof, ça m'attire trop. Mm-hmm. Ça m'attire pas trop, pardon. Après, bon. Pff. Il y a euro et euro, mais non, c'est pas...
Cette phrase est mythique.
Ouais.
Il y a euro et euro.
Non, mais tu vois, il y a l'euro parce que t'as bu trois pintes de bière et dans ce cas-là, c'est de la flotte. T'as l'euro,
oui.
T'as les pistes du matin, quoi.
Première pression à froid, c'est pas la meilleure.
Non, merci.
Non, merci.
Mais ouais, les partouzes, oui, carrément. Par contre, j'ai très envie
d'essayer ça,
même si j'ai déjà eu des rapports à maximum 6.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais je sais pas si on est déjà dans une partouze. Je sais pas.
Oh, je pense que plus de 3, on est sur une partouze.
Tu crois ?
Bon, je.
Y a pas l'histoire des pas gangbang, tout ça, non, genre.
Ah là là.
Je sais plus.
Il faut que je me renseigne davantage.
Ouais, moi aussi, je suis pas assez
informée. Je suis pas. Ouais. Bah non. Alors, si je. Peut-être, pareil, hein, je te dis comme je pense, mais je crois que gangbang, c'est que t'as une personne et qui se fait gangbanger.
Oui, c'est ça.
Hein,
c'est ça.
J'ai une personne, bon, une femme ou un homme qui reçoit et les gens sont un peu à tour de rôle. Alors que là, partout, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus liant.
On partage tout. Ouais.
On est vraiment sur un esprit d'équipe. Ouais. Vois, sur un
ouais, c'est ça.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir, mais pour tout le monde.
Oui, c'est
alors
ça.
Le gangbang, je crois que c'est un peu, tu vois.
Oui, il y a une personne qui prend tout.
Voilà,
il y a une
centrale.
Ouais.
Mais,
oui, bah, intéressant, pourquoi pas aussi. Hein.
D'accord, donc vous êtes dans une envie d'explorer plein de choses.
Ouais. Après, à voir avec lui ce que lui a envie de tester, mais je pense que si à un moment donné je lui dis j'ai vraiment envie de tester, je sais pas, genre un boucaké, et qu'il me dit ouais,
en
moi
plus,
pas
ça,
trop
c'est, ça c'est japonais,
c'est japonais,
et
ouais.
Toi qui adore la culture japonaise, ouais. Puisque ta touche, on va dire, d'artiste tatoueur,
ouais.
Parfait. Bah après oui, c'est ça, si toi t'as envie d'essayer et lui pas, bon, c'est quelque chose que à la limite
oui, mais voilà, on en
vous en discutez,
on en parle, et même si je pense qu'il m'accompagnera
oui,
il
te donnera la serviette,
c'est ça,
tiens, t'es tiens chérie, prends une douche.
Mais non, mais tu vois, c'est un exemple comme un autre, et il y a des choses, oui, je pense qu'il y a des choses qui se testent et il faut en parler.
Tu dois vieillir comment? Parce que là, t'as pas tout à fait 30 ans.
Non, j'ai pas encore 30 ans.
Comment tu vois ta sexualité dans 10, 15, 20 ans? Je sais, hein, c'est hyper loin.
C'est hyper loin. Et en plus, moi, je suis un peu frayé par l'avenir, par le futur. J'ai un peu de mal à me projeter. Et sexuellement, j'espère que je vais m'amuser de plus en plus. Encore
d'accord.
Plus. Et que je vais pas surtout... J'ai toujours envie de cultiver cette curiosité, en fait.
T'as pas de limite?
Je pense pas que j'ai de limite, ouais. Ouais, tant que j'ai pas testé, je peux pas savoir.
D'accord, ouais. Donc tu serais capable d'aller tester même des choses qui... Comme ça...
Bon, tu me demandes d'avoir un rapport avec, je sais pas, genre un âne, je te dis non.
Oui, mais alors je suis contente que t'aies répondu quand même. Je suis assez contente.
Mais non, ouais, il n'y a pas de... Disons qu'en fait, pour moi, le sexe, c'est tellement... c'est une grande cour de jeu, tu vois. Genre, tu peux t'amuser facilement. Il y a plein de trucs, il existe plein de choses.
Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est gratuit, c'est sur soi.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a rien à faire.
C'est ça. Il y a juste à vouloir aller le chercher. C'est pas très compliqué, en fait.
Clairement.
Donc, à partir de ce moment-là...
Tu devrais essayer sans limite plein de choses.
Ouais, je pense, pour au moins me dire...
T'as zéro tabou.
Ça, j'ai fait, ça, c'est cool.
Ouais, t'es une rare personne que j'interviewe qui a aucun tabou.
Non, j'en ai pas. Franchement, il y a peu de choses qui me choquent. J'ai des potes qui me racontent des anecdotes mais invraisemblables, mais je suis là genre ah ouais putain c'est énorme.
Ouais, mais ça te...
moi je vais rarement être choqué, enfin je...
Comment tu l'expliques ça?
Je sais pas, je suis assez ouvert d'esprit, très tolérant. À partir du moment où une personne elle est en phase avec elle-même et qu'elle est bien dans sa peau et qu'elle ne vit pas avec quelqu'un d'autre, oui. Je m'en fous. Franchement, mais kiffe ta vie, fais ce que tu veux, amuse-toi. Enfin,
oui, que ce soit...
Si tu veux tester toutes les drogues, teste toutes les drogues. Si tu veux tester genre les hommes, les femmes, teste les hommes, les femmes. Je sais pas si tu veux changer de métier, change de métier. Fais tout ce que tu veux, tu vois. Genre, change de sexe, fais tout ce que tu veux.
Tant que t'es en phase avec toi.
Ouais, tant que t'es en phase avec toi-même et que tu nuis à personne, en fait.
Ouais, Oui, pour toi, il n'y a pas tellement... Enfin, d'après ce que je comprends, il n'y a pas tellement de codes sociaux ni... C'est vraiment plus le code moral, quoi. Tant
absolument,
que les choses sont assez...
Absolument, ouais, voilà, vraiment.
Si tout le monde pouvait penser comme toi, Loïc, on serait vraiment dans un pays merveilleux.
Ouais, mais j'imagine. Mais je m'énerve pour le coup très régulièrement.
Bah, du coup, oui, je pense que oui, les injustices doivent te peser, ouais.
Je me vois pas... je me vois nulle part, en fait. Parce que je sais pas. Parce qu'en fait, je pense que je peux découvrir quelque chose qui va beaucoup me plaire. Et je vais me lancer là-dedans. Tu sais, quand je me passionne pour une nouvelle chose, je le vis intensément et jusqu'à l'épuiser. Et ensuite, je vais découvrir autre chose. Et,
ce serait quoi le mot de la fin pour toi?
Amusez-vous, quoi. Enfin, éclatez-vous, c'est facile de dire ça, mais pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment... soyez bien dans vos baskets.
Et surtout qu'elles soient jolies.
Surtout qu'elles soient jolies.
Ok.
Non, super. Mais il faut vraiment s'amuser et pas avoir peur de tester des choses, pas avoir peur. Et surtout ne pas véhiculer les clichés et les mauvaises pensées. Il faut laisser les gens vivre ce qu'ils veulent vivre et soyez curieux, quoi, vraiment.
Super. Merci beaucoup.
Mais merci
infiniment.
Beaucoup. Merci à toi.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité, que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast. Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.